Dans Jacques au chapitre 5, on a lu le chapitre au complet tantôt, mais j'aimerais qu'on relise les versets 1 à 11. Jacques au chapitre 5. On va lire les versets 1 à 11, c'est notre texte ce matin. On va voir comment Dieu se révèle aux perdus dans la souffrance. C'est le thème du mois de novembre qu'on termine aujourd'hui. La semaine prochaine, on va commencer le mois, le thème du mois de décembre avec Dieu qui révèle son évangile. Et donc, on considère pour une dernière fois ce thème que Dieu se révèle aux perdus. Et on va voir ça avec à travers l'instrumentalité de la souffrance. Donc, j'aimerais qu'on relise vraiment les versets 1, j'ai dit 1 à 11 ou 1 à 12? Ben, je voulais dire 12. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause du malheur, des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré, cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a point résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, car voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. On te remercie, Seigneur, de ce qu'on peut prendre un temps comme ça ensemble, assis à tes pieds. Oui, Seigneur, c'est ta voix qu'on veut entendre. Nous avons ta parole, mais Seigneur, c'est toi, Dieu, le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, qui nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, ce n'est pas un livre mort que nous avons, c'est la parole vivante, inspirée par l'Esprit du Dieu vivant et illuminée, expliqué par toi-même, le Dieu vivant. Seigneur, on sait aussi que c'est l'instrument que tu utilises pour amener les pécheurs au pied de la croix de Christ. Et s'il y en a ici qui sont encore morts dans leur offense et leur péché ce matin, qu'aujourd'hui ils viennent à celui qui est la vie, qui est le commencement de la vie nouvelle, qu'ils voient qu'ils n'ont aucune vie en eux-mêmes, qu'ils sont morts dans leur offense et leur péché, et que leur seul espoir, c'est de venir se réfugier auprès de celui qui est mort pour eux. Seigneur, on te prie que tu fasses ton œuvre, que tu te glorifies. Seigneur, on s'attend à toi. Merci que tu nous entends, tu nous écoutes, tu es au milieu de nous. C'est notre joie. On s'attend, Seigneur, à ce que tu fasses ce que juste toi es capable de faire, parce qu'on te le demande au nom de Jésus, notre glorieux Sauveur et Seigneur. Amen.
Amen.
Dieu se révèle aux perdus dans la souffrance. Il y a deux mots dans le chapitre qu'on a lu, on l'a lu tantôt au complet, puis vous avez sûrement vu ça aussi face sur face dans les versets qu'on a lus. Deux mots bien importants dans cette conclusion du livre de Jacques. D'abord, le mot « souffrance ». Ça se voit pas mal partout à travers la lecture qu'on a faite. D'abord, les pauvres, hein, qui étaient privés de salaire, maltraités. Il y avait ensuite les affligés, ceux qui sont malades. Et ça termine en parlant de ceux qui sont dans la souffrance pour être éloigné du Seigneur dans une vie qui n'a pas de but parce qu'ils se sont éloignés des voies de Dieu. Ça, c'est le premier mot, le mot souffrance. Le deuxième qui est important dans le chapitre, c'est le mot prière. Par laquelle les pauvres crient à Dieu et leur cri a été entendu par le Seigneur des armées. C'est aussi les affligés, les malades qui se confient dans le Seigneur pour que, avec la prière des justes, des anciens, qu'ils soient guéris. Et c'est aussi à la lumière duquel on voit Élie qui est donné en exemple de personnes qui croient à la prière et par le moyen duquel ils montrent une confiance inébranlable en Dieu pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de pluie à sa parole. Et après, la pluie est revenue encore là avec sa prière. Donc, pourquoi ici, je prends le temps de souligner ça? Parce que l'idée du message, c'est que Dieu se révèle au perdu dans la souffrance. Ou pour le dire autrement, Dieu sauve le malheureux, le perdu dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Job 36:15. Et il y a quelque chose de bien important ici qu'il faut comprendre, c'est délivrance divine dans la souffrance, pas de la souffrance, mais dans la souffrance, parce que parfois Dieu permet la souffrance et qu'elle dure et perdure, mais c'est au sein même de la souffrance que Dieu opère sa délivrance. Les prières du peuple de Dieu jouent un rôle clé. C'est un instrument crucial dans les mains de notre Rédempteur pour que lui se révèle au perdu. Dieu utilise les prières de son peuple, eux qui ont expérimenté sa délivrance, eux qui connaissent, qui ont goûté que le Seigneur est bon. Mm-hmm. Dieu veut se servir des prières de son peuple pour agir à travers la souffrance, dans l'instrumentalité de la souffrance, pour amener les perdus à le connaître. Et vous savez, je viens de citer 1 Pierre chapitre 2, verset 3, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon », c'est une citation du psaume 34. Et là-dessus, dans le psaume 34, on peut lire « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Mmh. Pour nous qui connaissons l'Éternel est notre refuge. Quand on entend des versets comme ça, ça réjouit notre cœur, ça sonne au même diapason. Mmh. Parce que le Saint-Esprit nous montre que c'est la vérité, que c'est ça notre plus grand bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Mais j'aimerais continuer aussi là-dessus, avec la question de la souffrance. Pour nous qui connaissons l'Éternel, nous sommes mandatés pour enseigner, inculquer cette crainte de l'Éternel, cette foi, cette confiance en l'Éternel. Ça dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et Dieu ne l'enseigne pas juste pour nous-mêmes, pour en vase clos, juste pour que ça reste avec nous autres. Non, il veut le transmettre à d'autres. Ça continue dans ce psaume que je me sers en introduction, psaume 34. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? N'est-ce pas que c'est ce que le monde désire? Le monde veut la vie. On sait que cette vie-là est à un seul endroit. Elle n'est pas dans rien dans ce monde. Elle est en Jésus-Christ, envoyée par Dieu le Père, par le Saint-Esprit. Et donc, ceux qui ont ce désir-là, ça dit « Préserve ta langue du mal ». Et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Écoutez bien versets 18 et 19. Quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voyez-vous, il y a un lien entre le juste qui crie à l'Éternel versus ceux qui ont le cœur brisé, qui sont dans l'abattement et qui ne le connaissent pas encore. Il y a un lien direct entre la prière des justes et la délivrance de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Dieu veut que son peuple intercède, prie. Parce que c'est comme ça, c'est à travers cette instrumentalité-là qu'il se révèle aux perdus dans la souffrance. Et n'est-ce pas que, depuis les on dirait à peu près dernière année et demie, depuis plusieurs mois, n'est-ce pas que Dieu a utilisé la souffrance pour se révéler? Et je crois que c'est pas fini. Je ne sais pas c'est quoi que Dieu nous réserve. Plus de souffrance, moins de souffrance, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. On peut aller devant le Seigneur avec cette prière que les apôtres ont fait retentir devant le Seigneur dans Actes 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Il y a toutes sortes de menaces. N'est-ce pas qu'on entend des bruits dont tu t'amènes dans la prière ce matin? Guerre, bruit de guerre, famine, ici, ça. Mais regardez, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, avec hardiesse, sans rien retenir, tout le conseil de Dieu, le proclamer haut et fort. Et regardez aussi cette prière de l'apôtre Paul, en fait deux prières, dans Romains 9 et dans Romains 10. Paul qui dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, pour mes parents, selon la chance, c'est la prière qu'il avait pour son peuple Israël. Et au chapitre 10, verset 1, il dit, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Dieu veut qu'on prie pour le salut des âmes, parce que c'est à travers cette instrumentalité qu'il se révèle aux perdus, spécialement dans la souffrance. » Maintenant, j'aimerais qu'on regarde avec notre texte ce matin trois façons par lesquelles Dieu se révèle aux perdus dans la souffrance. D'abord, avec les versets 1 à 6 qu'on a lus, Dieu se révèle par la souffrance infligée au peuple de Dieu. Et il y a certainement des parallèles à faire entre ce qu'on a lu ici, bon, les riches qui maltraitent les pauvres et tout ça, et qui sont injustement condamnés, tués même, et le juste qui ne résiste pas. Il y a un parallèle à faire avec l'Exode, n'est-ce pas? La sortie d'Égypte, le peuple de Dieu était dans la misère, il était dans une faiblesse et le pharaon était très dur envers eux autres. Et le peuple de Dieu était dans la souffrance. Et il en appelait à la délivrance de Dieu, mais Dieu voulait se révéler là-dedans. En Égypte, Dieu a dit, je vais montrer que je suis l'Éternel, qu'il n'y en a pas d'autre que moi. Et c'était pareil ici. Ça dit que leur cri est parvenu aux oreilles du Seigneur des armées. Et c'est l'expression de l'Ancien Testament, l'Éternel des armées. Il y a même, je pense que c'est Darby qui dit, le Seigneur Sabbataho. Ils ont pris le mot de l'Ancien Testament puis ils l'ont mis. Amen. On a la misère un peu à comprendre, on dit ça, Sabbataho. Moi, je dis pas ça souvent. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est groundé, c'est enraciné dans la révélation de l'Ancien Testament. Et je pense spécialement avec cette sortie de l'Égypte. Écoutez ce que justement le Seigneur a dit dans Exode 6. Il dit, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, et je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Dieu allait se révéler à travers, oui, la souffrance qui était infligée à son peuple et les prières qui étaient montées à lui. Et Jean ici nous parle des riches. Et il nous parle de leur rapport à l'argent. Et c'est pas très beau. Argent versus personne. Ils mettaient plus d'importance sur leur possession que sur les personnes qui étaient sous leur garde. Jean nous parle de la façon dont ils ont acquis leur argent. C'était pas beau. Ça dit que le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Donc, c'est par extorsion, c'est par abus qu'ils avaient fait de l'argent sur le dos de ces personnes-là qui étaient pauvres, qui n'avaient pas le moyen de se défendre. Ils avaient retenu leur salaire, ils avaient aussi abusé d'eux autres. Ils avaient condamné, tué ces ouvriers. C'est-à-dire qu'ils avaient envoyé dans des cours de justice corrompus qui les avaient jugés injustement et donc condamnés à mort. Il n'y avait rien qu'il avait pu pouvoir dire. Et n'est-ce pas vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous ça? Avez-vous un sentiment d'injustice en ce moment? Qu'il y a du monde qui crie, dit, ça n'a pas de bon sens ce qu'on voit là, comment ça? On voit ça, ça a été ça, juste pour vous dire, c'est pas écrit dans le journal matin, c'est écrit le 2000 ans. Là. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Savez-vous que depuis un an et demi, il y a 500 nouveaux milliardaires sur cette planète? Il y a un transfert de richesses réelles. Vous savez que le communisme, c'est comme ça que ça s'installe. Le transfert des richesses d'une, de la classe du peuple, d'une classe moyenne, vers la classe dirigeante. Et dans le fond, on voit une reproduction du même pattern depuis tellement longtemps. Maintenant, c'est un peu la même idée, mais avec, bon, la réalité actuelle, avec les moyens de contrôle tyranniques qui sont juste plus sophistiqués. Mais c'est toujours le monde entier qui est sous la puissance du malin. Mais savez-vous comment le malin exerce cette puissance et ce contrôle? Par la peur. Tout le monde a peur. Les oppressés, puis les oppresseurs aussi, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur contrôle. Comme on dit en anglais, c'est des control freaks. Des contrôles de freaks. Ma belle-mère, il y avait un livre, ça disait « How to deal with a control freak ». Elle dit « You want to control the freak? » En tout cas. C'est pas tout le monde qui l'a pogné, mais bon. Un freak qui veut pas se faire contrôler par un control freak. Mais bon. Mais je veux surtout vous remarquer, la fin du verset 6, ça dit « Bon, il y a toute cette injustice-là de la part des riches qui abusent de leur pouvoir, et qu'est-ce que ça nous dit sur le juste qui n'a pas résisté? » Je crois qu'on voit là la réponse des enfants de Dieu à travers l'histoire. Savez-vous que la majorité des enfants de Dieu n'avaient pas le luxe de toute façon de résister? Ils étaient pauvres, ils étaient déjà laissés, ils étaient... Le chrétien moyen à travers l'histoire était vraiment pas, il n'avait pas grand pouvoir. Et ça nous dit, hein, c'est les choses que le monde méprise et tout ça. Ah, il y a eu des gens élevés en autorité, en puissance, puis en richesse, mais c'est pas la norme, c'est pas la majorité. Et ces enfants de Dieu-là, je crois, en ne résistant pas comme ça, incarnent l'attitude même de leur maître. Parce que ça nous dit dans 1 Pierre, et 1 Pierre est écrit, je l'appelle l'épître de la souffrologie. Comment souffrir, même martyrologie, comment mourir pour le nom du Seigneur d'une façon qui l'honore lui. Ça nous dit que Christ lui-même était injurié, mais ne rendait point l'injure. Maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est pour ça qu'il ne résistait pas, il s'en remettait à celui qui juge justement. J'ai écouté un film vendredi, puis j'ai trouvé ça quand même assez spécial. On parle de pas résister. Connaissez-vous Desmond Doss, si je vous donne le nom? C'était un gars qui a été dans la Deuxième Guerre mondiale à Crenshaw Ridge. C'était au Japon. C'était vraiment pas jojo là-bas. Les Japonais avaient vraiment l'avantage. Ils étaient c'était pas des tranchées, c'était des tunnels. Puis ils pouvaient sortir des tunnels. Les Américains... Il arrivait en haut, puis c'était pas beau. Mais tout ça pour dire que lui avait la conviction dans son camp de ne pas porter d'armes. Puis il est allé, puis il n'a pas tiré un coup de fusil, mais il a sauvé 75 soldats. Puis c'est incroyable. Je sais pas, dans le film, là, j'essaie de comprendre. Là, ça fait combien de temps qu'il n'a pas dormi, ce gars-là? T'sais, il a passé au moins une nuit blanche, puis... Puis là, il descendait, c'est un ridge, là, un ridge, c'est une falaise. C'était haut, là, c'était pas comme, OK, il descend en bas. Non, vraiment, les gars, des fois, ils manquaient des jambes, tu sais, ils étaient blessés gravement, puis ils descendaient avec un système qui s'était fait avec une corde. Il a laissé sa marque de même. Fait que c'est pas parce que on n'a pas les armes avec lesquelles le monde combat qu'on peut pas laisser notre marque. Cet homme-là, de par sa foi, a laissé une marque, ça a été le premier, dans l'armée, ils appellent les CO ou OC, les objecteurs de conscience. En anglais, c'est conscientious objectors. Ceux qui, tu sais, par motif de conscience, qui disent, ben, je veux pas faire ça. Ça a été le premier à avoir la médaille d'honneur comme ça, la plus haute distinction de l'armée américaine pour ses services rendus, au point que les troupes ont été motivées de retourner parce qu'ils ont dit, ce qu'on a vu là, ça c'est la main de Dieu qui a fait ça, ça se peut pas que c'est arrivé juste de même. Puis effectivement, le gars il priait, puis il veut dire, le gars, tu sais, il y avait des balles partout, il aurait pu se faire tuer, il a même pas été blessé. Tu sais, Dieu a mis sa main, puis tout ça. C'est pour dire que Dieu se sert de moyens que nous, on n'aurait pas nécessairement pensé. Cet homme-là a eu un impact sur... C'était tous des inconvertis. En tout cas, non, pas tous des inconvertis. Beaucoup d'inconvertis, ça les a fait réfléchir. Puis quoi, quand c'était temps de retourner au combat, ils ont demandé de prier. Puis il y avait toute une crainte. Ça a semé la crainte de l'Éternel dans les troupes. Ceci dit, je ne vous conseille pas d'écouter ce film-là en famille. C'est un film de guerre, tu sais. Ouais. Mais l'histoire en tant que telle est quand même... c'est frappant. Et je crois que la signature de Dieu, sa marque distinctive sur ses enfants à travers l'histoire, c'est que Dieu a utilisé l'affliction de son peuple, sa souffrance, d'une manière sainte, unique, à part, où est-ce que, avec sa grâce transformatrice dans la vie de ses enfants, il a laissé comme ça un impact indélébile sur la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Eux autres, ils ne souffrent pas comme les autres. Les chrétiens ne souffrent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ça, c'est typiquement chrétien. J'aimerais qu'on remarque, juste, toujours dans cette idée-là de la souffrance qui est infligée au peuple de Dieu, mais en relation ici avec les riches, comment ils les traitaient. Une autre chose que je voulais qu'on remarque, bon, dans le rapport que ces riches-là avaient avec l'argent, c'est les riches, la façon dont ils utilisaient l'argent, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu, s'il n'y avait pas d'éternité. Ils vivaient dans la volupté, au jour du carnage, ils n'avaient pas de crainte de l'Éternel. Ils ne vivaient que pour eux-mêmes de façon très égocentrique. Et on peut dire, ah, ils sont donc bien méchants, ces gros riches-là. Savez-vous qu'on est les riches de l'histoire?
Amen.
Savez-vous que la société occidentale actuelle a des conveniences, des commodités, des luxes que le pharaon d'Égypte n'avait même pas? Tu sais, l'eau courante, un lit comme on a, des belles oreillers, pis tout ça. Il n'y avait pas ça là, à l'époque, là. Puis, genre, un menu, tu sais, Asie, Afrique, Amérique du Sud. Tu sais, nous, on a le choix. Je veux dire, pour eux autres, c'était compliqué, là. Je veux dire, OK, ils pouvaient avoir des mets plus sophistiqués, puis... Mais vous rendez-vous compte que nous, c'est sans précédent. Et je crois que la majorité de la population, et malheureusement, les chrétiens n'y échappent pas, sont gardés par la peur de perdre leurs possessions.
Ouais.
Et le marasme actuel qu'on voit, le marasme, est motivé beaucoup par la peur de souffrir en perdant ce que nous avons. Mais si on a Christ, laissons-les faire. Ils n'y gagneront guère.
Amen.
Le royaume nous appartient.
Amen.
Et dans, vous le lirez, c'est dans un rapport que notre Dieu, numéro 8, il parlait de se faire enlever leurs biens. Ça en parle aussi dans Hébreu. Ah, c'est pas nouveau aussi, là, ce qu'on parle là. Mais où est notre trésor? C'est ça que ça révèle. Et encore là, la souffrance infligée au peuple de Dieu révèle quelque chose d'unique aux perdus qui ne connaissent pas Dieu. Une troisième chose par rapport à ces riches, leur argent, leur richesse, qu'est-ce qui allait devenir? Il allait disparaître, s'éroder, ça part que ça rouille. Et cette rouille s'élève en témoignage contre eux autres. Puis va dévorer vos chairs, non seulement... Elle érodait elle-même cet or, cet argent, mais elle érodait leur caractère. Elle érodait l'image de Dieu en eux. Et allait se tenir contre eux lors du jugement de Dieu. En résumé, ceux qui chérissent, qui se confient dans leur richesse, ils vont avoir perdu l'occasion de faire fructifier cet argent, parce que l'argent n'est pas mauvais en tant que tel, c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Mais ceux qui se confient dans les richesses, on a perdu l'occasion de faire fructifier pour le royaume de Dieu, en faire un trésor éternel. Ça soulève la question suivante. Par rapport à nous, le peuple de Dieu qui souffre, qui a de la souffrance qui est infligée, et comme je l'ai souligné, c'est pas nouveau, c'est de toute époque. La question est la suivante. Qu'est-ce que ma vie révèle lorsqu'elle passe par le creuset de la souffrance? Ou peut-être qu'on devrait dire, qui ma vie révèle? Est-ce qu'elle me révèle moi ou révèle mon Seigneur? Est-ce qu'elle révèle la magnificence de mon Dieu, le Dieu vivant, suffisant, qui transforme, qui donne le contentement, ou est-ce que c'est ma personne avec la laideur de mon péché qui est révélée? Et mes amis, la différence, ce n'est pas juste pour une décision momentanée comme ça. C'est quelque chose beaucoup plus à long terme. Ça nous amène au deuxième point ce matin. non seulement la souffrance qui est infligée au peuple de Dieu, mais aussi la patience du peuple de Dieu. Ça dit, soyez donc patients à la lumière de ce qu'il vient de dire, à la lumière de cette souffrance qui est infligée aux justes qui ne résistent pas. Ça dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et donc, cette non-résistance est montrée par une patience. Et le mot patience ici, ça veut dire demeurer sous. Demeurer sous la main de Dieu, demeurer sous l'autorité de Dieu, demeurer sous son contrôle à lui. C'est ça la patience, c'est une persévérance dans la soumission de la foi, dans le soin de Dieu, dans la suffisance de Dieu. Et ça face à la pression, vous rappelez-vous, on a parlé de pression dans le dernier message, ou l'avant-dernier. Le monde dans lequel on est tout brisé. Et pour un enfant de Dieu, ça veut dire de la pression. Il y a un choc qui s'exerce. Et dans verset 7, ça nous parle que... Ça dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. À deux reprises, il parle de l'avènement du Seigneur. Je crois que ça, c'est... Ça réfère aux chrétiens qui, dans ce monde, ont une pression, mais qui gardent les yeux sur le retour de Christ, sur la rémunération, comme Moïse. Et il y a une pression qui s'exerce par le monde. Rappelez-vous, quand on a parlé de collectivisme, il faut, au nom du groupe, faire pour, comme tout le monde. Alors que pour nous, chrétiens, on veut plaire à Dieu, on veut se tenir pour lui. Et je crois que ce dont il est question ici, c'est une foi qui regarde au-delà des circonstances à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'à deux reprises, ça parle de l'avènement du Seigneur. Parce que oui, il y a beaucoup de méchanceté, il y a de la tromperie. Il y a un système antichrist qui s'installe. Mais nos yeux doivent être sur le Seigneur et son évangile, la bonne nouvelle. Parce que pour nous, on est de passage ici. Le même auteur ici nous dit que notre vie est une vapeur. On veut garder nos yeux où est-ce qu'ils sont, malgré la pression du monde. Mais ça devient un peu plus triste au verset 9 et 11. Ça dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Là, on rentre dans la communauté de la foi. Là, on ne parle plus juste du monde. Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Je crois que la réponse, la souffrance des fois ne vient pas seulement du monde, mais elle peut venir par le peuple de Dieu même. Et n'est-ce pas que dans le contexte aussi de Job, on voit la même chose, ses amis qui avaient une crainte de l'Éternel. Les amis de Job, ce n'étaient pas des païens qui voulaient rien savoir de Dieu. Ils connaissaient les voies de Dieu et la parole de Dieu. Mais ils ont-ils donné de la misère à Job? Oh, mes amis, cette réalité difficile pour le corps de Christ, en ce moment, on la vit. Ça demande que le peuple de Dieu prie, cherche la face de Dieu, puis regarde au-delà des différends, des conflits, puis des polémiques, puis regardez à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est plus que juste ce que moi je veux. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous qui sommes forts, là je viens de vous lire Romains 14, 19, puis Romains 15, 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est en bien, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaît, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Que ce soit notre motivation même lorsque des gens du peuple de Dieu nous donnent de la misère. Et ici, Jacques nous donne des illustrations. Il parle d'abord du laboureur. Le laboureur est forcé d'attendre. T'sais, on parle de patience ici. Le laboureur n'a comme pas le choix. Vous plantez une graine, vous ne pouvez pas tirer après. Il faut s'attendre à Dieu. Oui, il fait sa part. Il plante la graine. Mais il s'attend à ce que Dieu... Lui seul peut faire. Amen. Envoyer l'eau, le soleil, pour que le précieux fruit de la terre puisse venir. Il donne aussi l'exemple des prophètes. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Comment était la vie d'un prophète? Ah, il arrivait à quelque part, il y avait le tapis rouge, tout le monde était content. Waouh, Élie, on est vraiment content que tu sois là. Puis, Jérémie, viens, on va te faire visiter la cisterne. Mais ces prophètes étaient contraints de souffrir avec patience afin d'être fidèles à celui qui les appelait au ministère de la parole. Ils devaient proclamer « Ainsi parle l'Éternel », peu importe ce que les gens disaient. Et ça voulait dire de souffrir. Ils demeuraient sous. C'est ça, leur passion, demeurait sous l'autorité de Dieu, malgré le fait qu'il était rejeté, que les gens se moquaient d'eux. C'est ça la patience des prophètes. Et Job en a parlé tantôt, mais ça dit au verset 11, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience. Voyez-vous comment le mot patience, ça revient beaucoup dans les versets qu'on lit. De la patience de Job. « Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Job n'a pas eu le choix. Job, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je fais un bout, là, il n'a pas été consulté sur le fait de tout perdre, sauf sa vie. Il n'a pas été consulté. Il n'avait pas le choix. Il était contraint à souffrir avec patience. Et ça, même si Dieu s'est vanté de lui auprès du diable, là, à deux reprises dans le chapitre 1, Dieu dit sur son serviteur Job, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Amen. Mais Dieu avait décidé ça pour lui. Et ces trois exemples, le laboureur, les prophètes et Job, nous enseignent que Dieu se révèle au perdu dans la souffrance par la patience de son peuple. Parce que le peuple de Dieu ne souffre pas comme les autres. Ils ont une patience, ils demeurent sous l'autorité. Encore là, c'est saint, c'est à part. On ne voit pas ça ailleurs dans le monde. Des gens qui sont assez fous, comme les prophètes, comme Job, pour continuer à se confier en Dieu quand tout va mal. Parce que c'est ce que le monde va dire. Ouais, on s'en fout. Oui, parce que notre confiance est dans celui qui est au-delà de ce monde. Puis on ne pense pas comme ce monde. Mais ça révèle quelque chose sur notre Dieu. C'est-à-dire que bon, les gens vont dire qu'on est fou, mais notre confiance est plus forte que ce que les hommes peuvent penser. Peu importe ce que les hommes pourraient dire, je vais me confier en l'Éternel de tout mon cœur. Ça, c'est la réponse de la foi. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'on peut comprendre que l'Église de Jésus-Christ ne souffre pas en vain en ce moment. Ce qui arrive, c'est pas pour rien. Dieu a un but. Amen. Dieu règne. Dieu permet ces choses en poursuivant un but souverain et bienveillant. Et pour que ça porte du fruit en abondance, le peuple de Dieu n'a simplement qu'à demeurer sous. Ça aussi, c'est sorti dans la prière. Dieu ne veut pas des gens forts, qui sont braves, qui font. Dieu veut des gens soumis, qui lui font confiance, qui demeurent sous, qui sont patients dans la souffrance. Donc, Dieu se révèle à travers ça. Dieu révèle quelque chose d'unique sur lui-même à travers la patience de son peuple. Et finalement, au verset 12, on voit que Dieu se révèle au perdu par la souffrance aussi, non seulement par la souffrance de son peuple, par la patience de son peuple, mais aussi par l'intégrité de son peuple. Regardez, ça dit au verset 12, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous jugement. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois je dis ça, puis là je dis, « Voyons, mais ça ne suit pas le fil de pensée de ce qui était avant. » Il vient de parler de souffrance, puis j'ai un peu là, ben là, quand tu jures, je dis, « Est-ce que c'est juste moi, là? » Des fois, ça fait ça dans la parole de Dieu, ça veut dire, « Attention, il y a un trésor. » C'est pas parce que le Saint-Esprit s'est trompé, puis qu'il a dit, « Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié, il fallait que je mette ça là, puis boum. » Non, non, c'est à dessein. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et pourquoi ça, c'est là? Parce que dans le contexte de la souffrance, c'est comme ça, c'est quoi la grande tentation qui nous fait tomber sous le jugement? C'est de mentir, d'essayer de s'en sortir avec des serments, des façons comme ça. Non, que votre oui soit oui, que votre non soit non, soyez intègre. Ouais. Faites confiance à Dieu. La confiance en Dieu, ça se montre aussi par le fait que notre confiance, elle est en Dieu, elle est inébranlable. Parce qu'il y a une grande tentation de vouloir sortir, de vouloir s'en sortir par nos propres moyens. Parce que lorsqu'on souffre comme ça, lorsqu'on est contraint à être patient, à demeurer sous, on est sorti hors de notre propre volonté, de nos plans. Et donc, la tentation, c'est d'essayer de manigancer quelque chose pour revenir à notre volonté, revenir à nos plans. Voyez-vous le lien? Il y a un lien qui est là, qui est direct. C'est pour ça que Jacques parle ici d'être vrai dans nos paroles. Cette tentation de mentir, de tromper, lorsqu'on est dans ce type de situation-là, où est-ce qu'il y a une pression contre notre volonté, c'est bien réel. Et mes amis, je crois que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'avoir un sérieux temps de réflexion et d'introspection par la parole de Dieu. Hein, comme le psalmiste, comme David le dit dans le psaume 134, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. » Une introspection par le Saint-Esprit pour qu'on soit honnête par rapport à comment on réagit à tout ce qui nous arrive. Est-ce qu'on essaie de s'en sortir par des manigances? Ou est-ce qu'on accepte de souffrir comme c'est notre appel? Vous direz, si vous n'avez pas lu un Pierre, moi j'ai relu cette semaine, là. Puis je l'ai lu comme d'un coup de même. Des fois, ça nous donne la vue d'ensemble, puis waouh, c'est incroyable tout ce qu'il y a là-dedans. Beaucoup des souffrances de Christ et de la part qu'on a à ça. Et si on est honnête et direct ce matin, la grande majorité de ce qu'on voit en ce moment chez le peuple de Dieu, par rapport à la pression qu'on vit de la part du monde et de par nos propres rangs, dans nos propres rangs, malheureusement, je crois qu'on voit un grand manque d'intégrité, de foi par rapport à ce que Dieu nous envoie. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur. On a peur de l'homme, puis on a peur de souffrir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est à l'abri de la crainte de l'homme puis de la souffrance? On a toute peur de ça, c'est universel. Mais il ne faut pas se laisser prendre, arrêter par ça, il y a un piège. Puis on va faire face à Dieu là-dessus. On va tomber sous le jugement. Le jugement commence par la maison de Dieu. Puis le plus grave là-dedans, mes amis, c'est pas « Ah, ben là, mon témoignage. » Non, c'est le témoignage de Dieu.
Ouais.
Parce que Dieu ne veut pas être associé, présenté comme un menteur, comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance par un peuple qui ne lui fait pas confiance. Et j'aimerais dire que la solution, c'est pas d'être plus brave, c'est d'être plus vrai.
Amen.
Le monde n'a pas besoin de gens qui font en croire qu'ils sont au-dessus de leurs affaires. Ils voient l'hypocrisie à 2000 de loin. Non, n'ayez pas peur d'être vrai que oui, vous avez peur, puis oui, vous êtes faible. Pas besoin de se faire à croire ou de faire à croire aux autres qu'on est au-dessus des problèmes qu'on est en train de vivre en ce moment. Non, le monde a besoin de voir Jésus-Christ qui vit dans la faiblesse de son peuple. Sa puissance qui s'accomplit dans ceux qui se confient en lui. N'est-ce pas ce que Paul, dans cet épître tellement précieux de 2 Corinthiens, là aussi, il y a beaucoup de souffrances dans 2 Corinthiens. Deux références, j'ai retenu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il reconnaissait qu'il n'y avait rien en lui pour être capable de passer au travers ce qui passait. Puis évidemment, vous connaissez ces versets qui nous sont tellement précieux. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers. » Il n'essayait pas de paraître comme fort. Il se glorifiait de ses faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est ça que le monde a besoin de voir. C'est ça l'intégrité, dire « J'ai aucune force en moi-même, mais mon Dieu est tout-puissant. Et c'est lui que je veux qu'il soit révélé à travers la souffrance. » Dieu se révèle comme ça, par l'instrumentalité de son peuple, à ce monde perdu. Ça m'amène à conclure avec cette pensée-là ce matin. Le peuple de Dieu laisse Dieu se révéler au perdu dans la souffrance en proportion de sa disposition à laisser sa volonté propre, à abandonner toute volonté propre ce désir de ne pas souffrir, cette peur de ne pas souffrir, mais accepter la volonté de Dieu. Parce qu'on est appelé à la communion de ses souffrances. Je répète, Dieu va se révéler à ce monde, aux perdus, à travers nous, son peuple, en proportion du fait qu'on est prêt à dire « Ma vie n'est pas précieuse. Puis je ne fais pas un coup de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que Christ soit révélé à travers la faiblesse de ma vie, moi, un vase de terre, que sa lumière, que sa puissance puisse être révélée, afin que lui ait la gloire. » Et savez-vous quoi? Ça peut nous donner une joie. Même dans les temps difficiles qu'on vit. C'est ce qui va nous faire parler comme Paul, qu'on peut se réjouir, se plaire dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ. Parce que c'est là que sa puissance s'accomplit. Autrement dit, mes amis, ce qu'on vit, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire encore là, ça, c'est dans le début de Jacques, on peut voir toutes les épreuves puis les considérer comme un sujet complet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, cet exercice à demeurer sous l'autorité, la bonne main de Dieu. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est seulement par la foi qu'on peut penser de même, qu'on peut vouloir ce genre de choses dans la pression de la vie qu'on vit en ce moment. Mais ça porte du fruit. C'est pas en vain. Si tu es étranger à tout ce qu'on parle de souffrir, se réjouir à souffrir, si ça ne compute pas pantoute, comme on dit en bon français, mais que plutôt ta vie est caractérisée par le fait que tu vis dans la crainte de la mort et tu es retenu captif à cause de ça, mon avis, c'est peut-être l'indication que tu ne connais pas celui qui libère, celui qui est la vie. Que l'esprit de vie n'habite pas en toi. Et la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu te reconnais là-dedans ce matin, prie simplement que le Saint-Esprit, qui est Dieu, vivant, te convainque maintenant de péché, de justice et de jugement, que tu vois, que tu sens ta misère encore, comme ça dit dans Jacques, et que tu tombes au pied de la croix du calvaire pour recevoir celui qui est le seul qui peut te sauver, le recevoir comme ton sauveur et comme le Seigneur de ta vie. Et vous qui êtes ici, qui êtes le peuple de Dieu, qui êtes un enfant de Dieu, Dieu nous appelle à lui à travers la pression de la souffrance qui peut nous permettre qu'il nous soit infligé. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut nous sauver de nous-mêmes.
Amen.
Cette crainte-là qu'on a de l'homme et de la souffrance, Dieu veut nous délivrer de ça. Puis voir qu'il est plus précieux que ça. Que si on sauve notre vie, mais qu'on est loin puis froid par rapport à Christ, on a tout perdu. Et lorsqu'on arrive à ce point où est-ce que Dieu est notre tout, qu'il est ce qu'on a de plus précieux, ah, mes amis, on arrête de résister à sa volonté. On arrête d'insister sur la nôtre. Et là, on se met à prier vraiment que la grâce efficace de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Savez-vous quoi? On a parlé de la souffrance. On a parlé de la prière. La prière change les choses au sein même de la souffrance. Et je rappelle ce que j'ai dit au début. Dieu se révèle aux perdus dans la souffrance. Dieu opère sa délivrance pour son peuple dans la souffrance, pas de la souffrance. Pensez pas que là, on va plus souffrir. On est dans un monde qui est tout brisé. Jésus est venu, parfait, mais il était un homme de douleur, accoutumé à la souffrance, parce que le monde est brisé par le péché. Donc Dieu va pas enlever la souffrance. Bon, tant qu'on est sur terre, on va avoir part à cette souffrance. Puis il faut voir ça comme un appel à la communion des souffrances de Christ. Il est venu en souffrant, nous sommes appelés à ces mêmes souffrances, mais c'est ça qu'on a de plus précieux parce que c'est là que Dieu est. C'est là que Dieu est vrai, c'est là que Dieu est précieux, c'est là que sa vie se manifeste dans nos corps, dans les vases de terre que nous sommes. Mon appel, c'est simplement ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Merci Seigneur pour le fait que tu es au contrôle de tout ce qui nous arrive et que non seulement tu permets la souffrance, mais tu te sers activement, souverainement de la souffrance pour te révéler à ton peuple et te révéler aux perdus. Seigneur, nous, ton peuple sur lequel ton nom est invoqué, nous voulons être entre tes mains des instruments. Oui, en acceptant que tu nous fasses passer par la souffrance qui nous est infligée, mais Seigneur, en demeurant sous ton autorité, sous ta sainte houlette, ton bâton qui nous rassure, et souffrir avec intégrité, pas essayer de s'en sortir par les manigances humaines, mais accepter la part que tu nous donnes aux souffrances de Christ. Et Seigneur, ouvre-nous les yeux. On ne voit pas. Moi, j'ai la misère à voir ça comme un trésor, comme quelque chose de précieux, mais ce l'est, parce que c'est ton rendez-vous. Et merci même que tu sauves le malheureux dans sa misère et que tu te sers de la souffrance pour l'avertir, pour l'appeler à toi, Seigneur. On prie que s'il y en a ici, ou dans ceux qu'on connaît, Seigneur, qui ne sont peut-être pas ici ce matin, qui sont encore perdus dans leur péché, qu'ils puissent aujourd'hui être sauvés, venir à toi, le seul sauveur. Seigneur, merci qu'on a pu prendre ce temps ce matin. C'est précieux, c'est doux, c'est bon. On te loue pour ça. On ne le prend pas pour acquis parce qu'on sait que, oui, on est privilégié. On vit dans une époque de privilèges inégalés dans l'histoire de l'humanité. Merci pour ces bontés, Seigneur. Et tu vois, notre cœur s'était appesanti. Merci de te servir de la souffrance pour nous ramener à toi. Pour nous montrer que c'est toi notre trésor. C'est pas toutes les bénédictions que tu nous donnes de ta main, c'est toi. C'est toi-même, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta patience, toi, envers nous. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.